La semaine dernière, je vous ai proposé un petit retour en arrière, c'est-à-dire quelques fragments d'entretien présentés dans cette rubrique au cours de l'année écoulée. Il était difficile de faire ce choix, car le temps de cette rubrique est limité et j'ai été obligé de laisser de côté plusieurs personnalités importantes ayant pris la parole dans cette émission. Aujourd'hui donc, je vous propose une nouvelle série d'extraits d'entretien avec ceux que je ne pouvais pas vous présenter dans l'émission précédente. Le 26 et 27 février, Prague a accueilli l'écrivain français Bernard Werber, venu pour assister à la première de sa pièce « Nos amis les humains » donnée au théâtre Kalich. Il a déployé toute sa désarmante originalité et est devenu pendant son court séjour une véritable vedette des médias tchèques. Il a expliqué entre autres pourquoi il n'aime pas le mot « écologie ».
Parce qu'il a été récupéré par les politiciens. Le mot « écologie » ayant été récupéré par les politiciens, il est devenu un mot qui sert à des stratégies politiques. Je préfère le mot harmonie, c'est-à-dire harmonie de l'homme au milieu des autres espèces animales et végétales. Harmonie, ça veut dire qu'il n'y a pas un qui détruit l'autre, ni un qui est gêné par l'autre. Mais même cette harmonie, ce mot harmonie, est applicable aux rapports humains. Ce qui fait souffrir notre société, c'est les rapports dominants-dominés, qui est tout le temps des chefs et des esclaves. Et je crois que dans le futur, nous allons sortir de ce rapport de dominance pour découvrir une manière de fonctionner en partenaire à égalité, mais aussi en partenaire responsable. L'un des drames de nos sociétés, c'est qu'on a découvert la liberté sans avoir la responsabilité. Les gens voulaient ne plus avoir de chef, mais après ils ne voulaient pas non plus prendre de décision. Dans mes livres, je donne envie aux gens de s'assumer, de prendre des responsabilités et d'oser prendre des risques, voire d'oser échouer, mais au moins de faire quelque chose, pas d'attendre que les autres décident à leur place.
Parmi les témoignages de ceux qui ont connu Jan Vladislav, poète et traducteur tchèque disparu en mars dernier à l'âge de 86 ans, il ne faut pas oublier celui de Rosdin Chenu, son ami de longue date qui a pu suivre Jan Vladislav depuis les années 1960 et partager ses espoirs et ses angoisses.
Vous savez, Jan Vladislav était un homme aussi très modeste. Donc il ne se mettait pas en avant, il parlait relativement peu de lui en tant que comme connu ou public. Il parlait de lui, sa vie intérieure, sa conception des choses, mais il avait certainement souffert à la fin des années 70 d'être de plus en plus isolé ici. Et comme il ne voyait guère de jeunes à l'époque pour différentes raisons, ce qui a été le cas après son retour, qui a été une très bonne chose pour lui, il était très isolé ici. Alors qu'en France, il avait des amitiés dans lesquelles il avait confiance.
Avez-vous un souvenir de Jan Vladislav qui vous est particulièrement cher?
Oui. Une lettre que j'ai reçue de lui en 1970. Dieu sait s'il connaissait bien le français, parfaitement. Et sa lettre commence par « Chère Roselyne, vous êtes un vrai ami. Je le sais depuis longtemps. »
Est-ce que Jan Vladislav, à votre avis, a été un homme heureux?
Le mot heureux est difficile à définir. Je dirais que ça a été un homme intense, qui a eu des moments de dépression épouvantable, et puis une sorte de volonté de vivre, et au fond, tout ce qu'il a fait avait du sens, et le sens dans la vie, je ne sais pas si ça donne un sentiment de bonheur, mais ça donne un sentiment de paix et de plénitude.
Au mois de mai, j'ai invité au micro de Radio Prague le poète, romancier et essayiste québécois Pierre Neveu, qui fait partie d'une génération des poètes qu'il qualifie de post-québécoise, et je lui ai demandé, entre autres, dans quelle mesure sa poésie était influencée par le Québec, par le fait d'appartenir à une minorité canadienne.
Ben, elle est influencée, bon, d'abord, je dirais, par la langue, ça c'est certain. Le choix d'écrire en français en Amérique du Nord ne va pas de soi. On est extrêmement minoritaire, environ 2% de la population, donc ça c'est sûr. Par un héritage aussi culturel et même religieux, je veux dire, on vient tous, en général, de familles catholiques canadiennes-françaises, parce qu'à l'époque, on parlait plutôt du Canada français que du Québec. Donc ça, cet héritage-là est présent en moi, comme une mémoire aussi littéraire. Je dirais que mon rapport aux autres poètes québécois, à ceux qui m'ont précédé, est très important. En même temps aussi, je dirais, mes influences poétiques sont multiples. Notamment, je dirais, j'ai été très influencé par la poésie américaine, ça c'est sûr, la poésie des États-Unis. J'ai lu beaucoup de poètes américains, des poètes du Canada anglais également, mais également aussi, bien sûr, d'abord la poésie française parce qu'elle est de la même langue. Alors les poètes français du 20e siècle surtout, les poètes surréalistes et tous ceux qui ont suivi.
Au 19e siècle, la poésie tchèque a joué un rôle important dans l'émancipation du peuple tchèque, surtout face à la germanisation, parce qu'il était menacé de germanisation. Je crois que la poésie québécoise a joué un rôle semblable dans l'histoire du Québec, n'est-ce pas? Est-ce que ce rôle est encore vivant? Est-ce que ce rôle est encore actuel au Québec?
C'est-à-dire que c'était une étape fondamentale, c'est-à-dire que les poètes, je dirais que ça s'est produit évidemment beaucoup plus tard chez nous, ce mouvement d'affirmation nationale par la poésie, à partir de l'après-guerre, après 1945. C'est sûr que là, il y a eu toute une génération de poètes qui ont joué un très grand rôle, dans cette, notamment le plus connu de ces poètes-là, qui s'appelle Gaston Miron, qui est considéré un peu comme le poète national, qui a écrit son grand livre en 1970, L'homme rapaillé. Mais je dirais que ça a été une étape. Une fois cette étape-là faite, on est passé à d'autres thématiques.
La galanterie française, tel est le titre d'un livre paru chez Gallimard et dont la traduction tchèque est sortie aux éditions Academia. C'est à cette occasion que nous avons accueilli à Prague Claude Habib, auteur de ce livre qui révèle et illustre des aspects insoupçonnés de la galanterie, la cite dans son contexte historique, social et artistique et la confronte avec les modèles de comportement de notre temps. Claude Habib a expliqué au micro de Radio Prague pourquoi la galanterie s'est développée justement en France.
Eh bien, je crois que c'est par propagande monarchique. Je crois vraiment que Louis XIV a fait de cette manière spéciale de traiter le mieux possible les femmes une vitrine de son pouvoir. Après tout, il est roi absolu. Il aurait pu être totalement despotique. Or, il choisit de donner une autre image, l'image à la fois d'un prince chrétien et d'un prince soumis au charme, je dirais pas au pouvoir, au charme des femmes. Un roi qui s'agenouille devant, comme ça, la beauté. Et bon, c'est une décision du jeune roi de mettre les femmes sur un piédestal, de leur donner cette importance, cette visibilité, cette importance politique. À la fin de son règne, Madame de Maintenon assiste au conseil et donne son avis.